Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Voix de l'Ombre. Je m'appelle Auguste.
Et moi, Kayane.
Suite à la mort de Robert Badinter dans la nuit du 8 au 9 février 2024, nous tenions à lui rendre aujourd'hui hommage en retraçant les grandes étapes de sa vie à travers cet épisode. Principalement connu pour avoir été le ministre de la Justice de Mitterrand ayant fait passer l'abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 1981, Robert Badinter est un homme aux mille vies. Écrivain, garde des sceaux, avocat ou encore défenseur des droits humains au sein de l'association Amnesty International. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter ce grand personnage pour qui le président de la République Emmanuel Macron a demandé son entrée au Panthéon ce 14 février. À sa cérémonie d'hommage le 14 février, place Vendôme, le président de la République Emmanuel Macron le décrit comme une figure du siècle, une conscience républicaine.
Avant de commencer, rappelons les différentes étapes de son enfance, marquées par l'occupation de l'Allemagne nazie. Robert Badinter est né le 30 mars 1928 à Paris, d'une famille juive. Avec sa famille, il fuit Paris et l'occupation en 1940 pour rejoindre Lyon, puis la Savoie. Mais son père, Simon, est arrêté par la Gestapo en 1943 à la suite d'une rafle commanditée par Klaus Barbie. Il doit également faire face à la mort de son oncle, de sa grand-mère et de nombreux cousins, envoyés en camp de concentration. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il obtient son baccalauréat, Badinter poursuit un double cursus de littérature et de droit. Il poursuit ensuite ses études dans le droit et obtient le barreau à Paris en 1951, puis devient docteur de droit. Il obtient aussi une agrégation de droit en 1965 qui lui permet de devenir professeur de droit durant de nombreuses années, en parallèle de son activité d'avocat. Badinter devient vite un avocat de renom puisqu'au cours de sa carrière il défendra des personnalités reconnues comme Brigitte Bardot ou encore le réalisateur Jules Dassin.
Nous allons désormais développer la lutte de Badinter pour l'abolition de la peine de mort et comment elle y est parvenue. Robert Badinter, comme nous avons pu le dire précédemment, est d'un point de vue professionnel loin du milieu politique. Cependant, c'est un domaine qui l'intéresse, en témoigne d'une part sa proximité avec des personnages socialistes comme Mitterrand ou Pierre Mendès France, et d'autre part sa candidature en 1967 à la première circonscription de Paris. Badinter est donc un avocat engagé à gauche politiquement, mais la politique n'est pas son métier. Cela change en 1981, lorsqu'il est nommé par Pierre Mauroy comme garde des Sceaux. Ayant à travers sa carrière d'avocat évité la peine de mort à plusieurs criminels, Badinter souhaite désormais l'abolir. Il fait ainsi voter à l'Assemblée nationale une proposition d'abolition de la peine de mort qui se solde par 365 voix en faveur contre 117 contre. Mais sa lutte ne s'arrête pas là, puisqu'il souhaite aussi œuvrer pour la réinsertion des prisonniers, qui est une condition nécessaire pour lutter contre la récidive. Badinter est ainsi aussi sensible aux conditions de vie dans les prisons. Si le sujet de l'abolition de la peine de mort vous intéresse, vous pouvez aller écouter un autre de nos podcasts entièrement dédié à ce sujet.
Si Badinter est principalement connu pour avoir aboli la peine de mort, il a également mené plusieurs réformes d'envergure dans le domaine carcéral, bien qu'elles soient moins connues de la société. Tout d'abord, la critique de Badinter sur les prisons est indéniable.
Les prisons françaises ne sont pas l'honneur de notre pays.
Il regrette le manque d'investissement dans les prisons et rappelle que la France est le pays qui dépense le moins par tête de prisonniers parmi les pays d'Europe du Nord. Il dénonce également le problème indéniable de surpopulation carcérale et l'état lamentable des prisons qui en découle et qui est contraire aux valeurs d'un pays des droits de l'homme. Malgré une forte opposition de la droite de l'époque, qui voit en lui un certain laxisme et un, je cite, « pervers dont l'unique satisfaction était de favoriser le crime au lieu de le combattre par les procédés appropriés », il mène à bien différents projets pour tenter d'humaniser les prisons françaises. Il souhaite faire progresser l'état de droit et assurer la garantie des droits de l'homme et est vivement soutenu par Mitterrand. En 1986, il se rend en Dordogne pour inaugurer la prison de Mozac et Grand Castan, prison semi-ouverte avec des petites maisons et une place centrale. Cette prison est construite pour les détenus avec de longues peines ainsi que les détenus incarcérés pour faits à caractère sexuel. Cette prison devait être un modèle de ce que devait être la prison de demain, selon Badinter. Selon lui, les prisonniers sont avant tout, je cite, Des hommes qui vont venir ici et qui vont sortir. Et il faut éviter qu'ils soient déresponsabilisés, qu'ils soient infantilisés et incapables d'affronter ce qui est la réalité de la société des hommes libres. Il poursuit en disant, je cite, « Ces hommes sortiront ou alors ce sont des prisons dépotoirs dans lesquelles on jette des gens. » Ainsi, la prison de Mozac avait pour objectif de privilégier l'initiative du détenu et éviter qu'il soit infantilisé, en mettant par exemple à disposition des détenus un domaine agricole de 90 hectares. Un lieu personnalisé pour accueillir les familles pendant 48 heures est également envisagé pour humaniser les rencontres avec l'extérieur. Ainsi, durant son mandat de ministre, il a fait construire 550 places en prison par an, contrairement à un rythme de 350 places par an avant son arrivée. Toutefois, il reconnaît qu'un retard immense subsiste, retard en partie dû à la volonté de cécité des gouvernements, ainsi que par l'opposition des communes qui s'opposent à la construction de prisons à proximité.
En 1992, il publie La prison républicaine, qui retrace l'histoire des systèmes pénitentiaires de 1870 à 1914. Il explique que l'idéologie pénitentiaire est restée constante au fil du temps et que la prison était reconnue comme un lieu de peine pour transformer les délinquants après les avoir punis. Ce point de vue était soutenu par les républicains en 1870 qui, à travers l'incarcération des délinquants, souhaitaient encourager un comportement conforme aux valeurs de la République. Ça, c'était sur le papier. Mais dans les faits, la Troisième République était bien loin d'une discipline humaine. À travers son ouvrage, Badinter s'est alors demandé pourquoi la République s'est-elle refusée à prélever les ressources nécessaires pour changer la prison, en finir avec la misère et la corruption de la vie carcérale, toujours dénoncée, mais pourtant toujours reconduite. À ce sujet, il écrit
« Les détenus sont le plus souvent les exclus, les marginaux des classes laborieuses. Comment les républicains de gouvernement auraient-ils pu transformer la condition de ceux-ci alors qu'ils se montraient si prudents, voire timorés dans leur politique sociale? Avant de raser les bastilles carcérales, il leur aurait fallu démanteler bien des forteresses d'injustice sociale. »
Ce retard quant à l'amélioration des conditions des détenus subsiste encore aujourd'hui. En effet, lorsqu'il s'est rendu à l'âge de 82 ans dans les prisons d'enfants d'Europe de l'Est, en Bulgarie, en tant qu'émissaire spécial de l'UNICEF, il dit avoir été marqué par un sentiment de révolte absolue et une inhumanité ordinaire dans des établissements où même le ciel est emprisonné. Sentiment nourri par le témoignage d'un Bulgare qui lui dit « La plupart du temps on pue, la douche en prison c'est une fois par semaine ».
Mais son combat ne s'arrête pas là. Ses discours et ses initiatives auront une influence incontestable sur la loi pénitentiaire de 2009, qui a pour but de mettre fin au désintérêt social pour ce milieu méconnu, et ainsi de favoriser des conditions de vie plus dignes aux détenus et assurer le respect de leurs droits. Finalement, Badinter aura activement participé à l'amélioration de la vie en prison, ainsi que la prise en compte de la question carcérale par la société et le gouvernement. L'actuel maire de Périgueux le décrit comme, je cite, « un brillant penseur ». Un orateur hors pair dont l'humanisme et la force de conviction emportaient tous ceux qui croisaient sa route. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou à consulter notre site internet. Et à bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.